Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes. Aujourd'hui, on va décortiquer bien sûr toute l'actualité du mondial, mais on mettra le focus surtout sur le football africain. D'ailleurs, le football africain qui a le sourire, hein, puisque le Sénégal vient d'ouvrir la marque à l'instant face à la Pologne. Un but un petit peu gag, hein, plutôt un autogol d'ailleurs des Polonais pour permettre au Sénégal de mener 1-0 après une quarantaine de minutes. On l'a dit, on va s'intéresser aujourd'hui au football africain avec un spécialiste s'il en est. Raoul Savoie, bonjour. Avant de parler purement football avec vous, eh bien, on va laisser Jérôme Moutet dresser votre portrait.
D'accord.
Raoul Savoie.
Ah, la Savoie, ses nombreux sites historiques et thermaux, ses stations de ski, son Mont-Blanc et son Isère. Mais non, ça c'est la Savoie, V-O-I-E, vous c'est V-O-Y. Raoul Savoie, vous êtes né le 18 mai 1973 à Sainte-Croix dans le canton de Vaud. Sachez que le 3 décembre 2019, vous serez âgé de 17 000 jours, soit à peu près le nombre de jours qu'il y a entre chaque but marqué par Seferovic. Vous êtes hispano-suisse, ce qui veut dire que vous avez une chance de plus que nous d'être champion du monde cette année. Avec votre prénom, vous avez certainement dû subir en étant petit le genre de jeu de mots. Ça roule Raoul, Raoul ma poule, tu déboules Raoul. Ou alors un matin, où vous aviez piscine avec vos amis d'école, la maîtresse en vous voyant nager, vous avez lancé « Tu coules Raoul !» Mais rien ne vous a perturbé. Et depuis, vous parlez même couramment l'anglais, l'italien, le français, l'espagnol et l'allemand. Et vous pouvez même comprendre la langue arabe, ce qui est un avantage par les temps qui courent. Et quand on tape sur Google Raoul Savoie joueur, il nous vient Raoul Savoie entraîneur. Alors on va parler de l'entraîneur. Vous êtes titulaire des diplômes UEFA. Vous avez dirigé les plus grandes équipes du monde, comme par exemple, et dans l'ordre, Tonnerre de Yaoundé, CO des Meknès, SCC Mohamedia, IR Tanger, Éthiopie, Swaziland, MC Oujda, MC Oran, MC El Ulmar, République Centrafricaine, Gambie et à nouveau et actuellement la République Centrafricaine. En regardant cette liste, on se dit que soit vous avez une copie africaine, soit vous faites un trafic d'ivoire. Mais non, car là au milieu, perdu au milieu de ces noms dont on ignorait totalement l'existence, on trouve aussi Neuchâtel Xamax et le FC Sion. Et là, on comprend mieux qu'après avoir entraîné Sion, vous vous soyez barré en Afrique. À 45 ans, vous avez déjà entraîné pas mal d'équipes avec un grand succès, notamment sur le continent africain. Alors personne, pourquoi personne ne vous veut en Suisse? Car vous avez pris quelques kilos ces dernières années? Non. Car avec votre stature et votre barbe, vous ressemblez un peu à un gentil nounours? Non plus. Alors où est le problème? On ne sait pas. D'ailleurs, dans un article du journal La Région, le journal du Nord Vaudois, est daté du 21 décembre 2017, vous disiez « En Suisse, on ne veut pas de moi ». Alors, on lance un appel pour vous, Raoul. Chers dirigeants de club, si vous nous écoutez, prenez Raoul Savoie comme entraîneur, un gars qui a eu du succès à peu près partout où il est passé. Et franchement, chers dirigeants de club, un gars qui a entraîné le Swaziland, ça ne peut être qu'une personne exceptionnelle. Je vous rappelle aussi que cet homme a également entraîné le SCC Mohamedia. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça force le respect. Alors, pensez à lui. Raoul Savoie, on pourrait dire de vous que vous êtes le prototype de l'être humain parfait pour l'UDC. Puisqu'un Suisse à moitié espagnol qui se barre aussi souvent en Afrique, c'est idéal pour eux. Mais on retiendra surtout de vous que vous êtes aussi le porte-parole parfait de l'adage qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Car avec le succès que vous avez à l'étranger, c'est très bizarre que vous ne soyez pas assis sur un banc d'entraîneurs en Suisse. Alors Raoul Savoie, c'est tout le mal que l'on vous souhaite.
Raoul Savoie, qu'est-ce qui vous séduit du coup autant dans le football africain?
Qu'est-ce qui me séduit c'est peut-être 40 000, 50 000 spectateurs à tous les matchs, une grosse ambiance, des gens qui parlent de foot tout le temps, partout, que ce soit des femmes ou des hommes, une vraie passion, que ce soit pendant la semaine à l'entraînement, lors des déplacements, les matchs, c'est vraiment, je dirais, le peuple africain vit pour ce sport, donc c'est tout à fait autre chose que ce qu'on peut vivre sous nos latitudes, où les gens s'occupent du match que le jour du dimanche. Donc voilà, c'est ce qui me plaît, c'est cette ambiance, cette pression, apprendre à faire son métier qu'on aime, sa passion dans un endroit passionné, c'est ça qui est le plus important et le plus beau.
Alors le football africain qui est un petit peu dans le dur quand même, hein, en ce début de Coupe du Monde, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie ont perdu leur premier match, ça se passe un petit peu mieux pour l'instant pour le Sénégal qui mène 1-0 face à la Pologne à la 43e minute de jeu. Comment est-ce que vous expliquez, Raoul Savoie, ce début de tournoi difficile pour les équipes du continent africain?
Oh, c'est difficile de faire une généralité parce que chaque équipe a ses particularités, elles ont tous eu leurs problèmes. Bon, le point commun, c'est qu'elles ont pris des buts dans les arrêts de jeu. Alors, peut-être un manque de concentration ou des profondeurs de banc peut-être pas assez importantes ou lorsqu'on doit faire un changement ou un joueur blessé, on a quelques soucis ensuite au niveau tactique ou au niveau du jeu. Maintenant, je pense que l'Égypte va bien réagir ce soir. Le Sénégal est en train de créer des problèmes, même si le match n'est pas exceptionnel contre la Pologne. Le Maroc, on a vu, c'était quand même supérieur à l'Iran, mais ils n'ont pas su la mettre au fond. Et ensuite, bon, une inattention en fin de match, ça peut arriver. Voilà, donc pas de généralité, mais peut-être une profondeur de banc moins importante. Donc forcément, lorsque les choses tournent un peu plus difficilement dans le match, on a moins de solutions et on souffre en fin de match. C'est sans doute ça.
Dans les médias, notamment en France, on parle souvent du Sénégal comme le meilleur représentant africain. C'est une analyse que vous partagez ?
Oui, parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 joueurs qui ont la binationalité, qui ont beaucoup d'entre eux évolué en équipe junior française. Certains ont même joué en équipe de France, donc en match amicaux. Donc voilà, donc c'est forcément un représentant français en Coupe du Monde actuellement. Mais c'est un peu tous les pays africains comme ça, à part l'Égypte et le Nigeria. La plupart des autres équipes sont remplies de binationaux.
Tactiquement, les équipes africaines ont souvent, on peut le dire comme ça, ont été pointées du doigt par le passé, notamment pour leurs lacunes. C'est un problème qui est globalement, en tout cas, résolu aujourd'hui.
Bon, maintenant, la plupart de ces joueurs, si ce n'est tous, évoluent en Europe ou ont évolué dans des gros championnats en Europe. Donc, je crois que c'est plus tellement une règle. Elle a pu être valable il y a 10 ou 15 ans, mais ça n'est plus le cas. Maintenant, bon, évidemment, lorsqu'ils sont en sélection ensemble, leur culture ressort, leurs habitudes ressortent aussi. Mais je dois dire, maintenant, c'est quand même des équipes organisées. On a vu le Maroc, même l'Égypte a quand même été à la hauteur au niveau tactique. Le Sénégal est en train de causer beaucoup de problèmes à une Pologne qui est quand même remplie de joueurs expérimentés aussi. Donc je crois que c'est plus la règle.
Beaucoup d'équipes africaines font aujourd'hui appel à des sélectionneurs étrangers. C'est le cas de l'Égypte, par exemple, avec l'Argentin Cooper, du Nigeria avec l'Allemand Rohr, du Maroc avec le Français Renard. Vous faites, vous-même, également partie de ces sélectionneurs, Raoul Savoie, vous qui êtes hispano-suisse et qui entraînez la République centrafricaine. Pourquoi ces fédérations font-elles appel à des sélectionneurs étrangers ?
Il y a eu des questions de mode. Je crois que quand le voisin avait un entraîneur, on va dire blanc, on voulait un blanc. Ensuite, il y a eu aussi des périodes où on n'en voulait plus du tout. Il y a certains pays actuellement qui ne veulent plus d'expatriés, comme on nous appelle. D'autres pays où il y a beaucoup d'ethnies, où il y a des grosses tensions entre les communautés, préfèrent avoir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient, qui n'a pas d'a priori par rapport au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest du pays, et qui va vraiment se concentrer sur un travail de fond avec un joueur de foot et pas une ethnie ou une religion. Donc parfois, ça peut être une solution, c'est d'amener quelqu'un de totalement étranger à tout ça, qui va être dans ses décisions complètement neutre et impartial. Voilà. C'est surtout pour ça, je crois, que la plupart des pays africains se tournent vers des étrangers et plutôt des expatriés.
On l'a vu hein, dans un passé récent, entre guillemets, notamment dans les dernières Coupes du Monde, les équipes africaines sont plutôt là pour jouer les troubles faits, si on prend le Ghana, par exemple, dans un passé récent. Est-ce d'après vous, oui, Raoul Savoie, à terme, à moyen terme, on va dire ça comme ça, une équipe africaine pourrait être une grande favorite de la Coupe du Monde, pourquoi pas même remporter une Coupe du Monde ? On en est encore trop loin aujourd'hui.
Aux grandes favorites, je ne pense pas. Qu'elles puissent arriver dans le dernier carré, je pense qu'on va le vivre dans ces prochaines éditions. Un vainqueur, ça risque d'être encore un peu long parce que bon, il y a quand même pas mal de concurrence assez sérieuse à travers le monde. Mais au même titre que les Sud-Américains qui ont mis un moment aussi à revenir sur le devant de la scène après le début des Coupes du Monde, je crois que les Africains auront leur tour aussi, sans doute avant les Asiatiques, ça je pense. Mais c'est pas pour demain. Il faudra encore attendre quelques générations, je pense, pour avoir un vainqueur en tout cas de Coupe du Monde.
On va parler de l'Égypte, hein, puisqu'elle joue ce soir un match absolument capital, le contre la Russie. On a vu une équipe très compacte dans le premier match contre l'Uruguay, très défensive également. Est-ce que le retour annoncé aujourd'hui de Salah va changer l'approche du match des pharaons, d'après vous ?
Alors non, pas du tout. Bah justement, l'Égypte de Cooper a été construite pour que Salah puisse bénéficier d'espace dans le dos, c'est-à-dire qu'elle travaille surtout sur la contre-attaque, sur la vitesse. Donc elle a joué la même chose sans Salah, donc forcément moins efficace, mais elle va garder le même système de jeu, simplement avec on dira une cible devant qui est plus rapide, qui a plus de talent et qui peut aller créer des problèmes dans la défense adverse. Donc elle va rester dans son schéma, mais avec un avantage supplémentaire au niveau de l'offensif avec Mohamed.
Alors on vient d'arriver à la mi-temps de ce Pologne-Sénégal 1-0 pour le Sénégal. Dans 45 minutes, enfin dans une heure du coup avec la mi-temps, toutes les équipes auront joué leur premier match dans la compétition. D'après vous, ou plutôt pour vous, Raoul Savoie, quelle équipe vous a le plus impressionné jusqu'à présent ?
Bon, c'est difficile de faire un bilan après un match parce qu'il y a eu forcément des déceptions. Il n'y a pas grand monde vraiment qui a fait une forte impression. Il y a plutôt des équipes qui ont démarré tout tranquillement. Je crois que c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut attendre deux matchs. Une fois que les deux premiers matchs auront passé, on aura une idée vraiment de qui va sans doute passer à côté et qui va être une bonne surprise pour la suite du tournoi.
Vous êtes hispano-suisse, on va donc en profiter. L'équipe d'Espagne, oui. Qu'est-ce qu'elle a perçu ou quel bilan est-ce que vous en tirez après ces 90 minutes explosives ? On peut les qualifier comme ça face au Portugal.
Oui, explosives. Bon, c'était un derby, pas facile à gérer comme premier match. Forcément, les deux favoris du groupe, donc il ne fallait absolument pas perdre. Donc il y avait une tension quand même supplémentaire dans ce match-là, l'éviction de à juste titre du sélectionneur quelques jours avant.
À juste titre, vous dites ?
Oui, à juste titre, parce qu'on ne se comporte pas comme ça. Lorsqu'on a renouvelé un contrat au mois de mars et qu'on quitte sa sélection, on a au moins l'obligeance d'aviser ses dirigeants et d'attendre la fin de la compétition avant de l'annoncer. Je crois qu'il y a quand même certaines valeurs qu'il faut garder dans notre métier. Et je crois que la Fédération espagnole a pris des risques, mais elle a très bien fait. Je crois que il faut de temps en temps aussi remettre au centre les valeurs et le respect des institutions avant sa personne.
Du coup, vous avez été plutôt rassuré de l'entrée en matière de l'Espagne malgré ce coup dur, on peut le qualifier comme ça ?
Oui, parce que je crois qu'elle a été nettement supérieure au Portugal. Je crois que les Portugais, le jour où Ronaldo arrêtera de jouer, il faut qu'il se mette à la recherche de joueurs offensifs parce que c'est compliqué s'il n'est pas sur le terrain. L'Espagne a fait son jeu, elle a été assez plaisante au niveau offensif. Bon, elle prend un penalty, un but gag de DGA, donc forcément, sur l'ensemble du match, elle méritait de gagner, je crois quand même. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour eux, mais il va falloir quand même qu'ils règlent 2-3 soucis au niveau défensif. Mais je préfère avoir une Espagne qui met 4 buts et en prend 3 qui en met un simple et qui attend et qui prend pas de buts. Ça sera pour le spectacle beaucoup plus intéressant.
C'est donc désormais Fernando Hierro qui est à la tête de l'équipe d'Espagne, propulsé oui. Sur le devant de la scène quelques heures avant le Mondial. Est-ce qu'il a finalement les épaules pour gérer l'effectif riche de l'Espagne ?
Bon, écoutez, autant j'étais assez d'accord avec le fait de limoger le sélectionneur, mais par contre, les deux adjoints qui étaient avec lui doivent quand même avoir un peu la pilule amère, parce qu'on aurait pensé franchement que les deux qui étaient dans le travail quotidien sur le terrain avec les joueurs allaient prendre la relève, et on va chercher le directeur technique qui est quand même quelqu'un assez éloigné du terrain en général. Donc je pense que les deux là, ils doivent quand même se demander s'ils ont les capacités. Mais maintenant, Hierro, c'est un ancien joueur. Il a le respect du vestiaire. Il connaît la plupart des cadres. Donc je crois qu'il va surtout gérer et laisser les joueurs faire leur jeu.
Vous qui êtes également sélectionneur, Raoul Savoie, on le rappelle, de la République centrafricaine aujourd'hui. On a vu des débuts difficiles pour la France, qui a gagné quand même, pour l'Allemagne, qui a perdu, pour le Brésil, tenu en échec par la Suisse, pour l'Argentine, tenu en échec par l'Islande. Quand on est sélectionneur de telles équipes, qu'on subit la pression des médias, la pression de tout un pays, comment est-ce qu'on fait en tant que sélectionneur pour rapatrier ses troupes sur l'essentiel finalement et les faire ne pas tenir en compte ce qui se passe autour?
Bon, c'est pas facile parce que maintenant avec les téléphones, les réseaux sociaux, on peut malheureusement pas les couper du monde totalement et je crois que c'est pas non plus une solution. Mais on doit surtout nous avoir un discours. C'est le discours du sélectionneur et ses actes. C'est-à-dire que si le sélectionneur a une idée, il a un principe, il a des convictions, il ne faut pas qu'il se laisse influencer par la presse. Parce que malheureusement, on est humain comme tout le monde. Et si on lit à longueur de journée, on écoute des commentaires, on va forcément être influencé. Donc je crois que si le vestiaire sent que le coach est influençable et influencé par les bruits de couloir et ce qui se dit dans les réseaux sociaux ou dans la presse, le joueur finalement se dit mais on n'a pas forcément de plan et de projet. Donc si le joueur sent que le coach, malgré la pression, un peu comme avait fait Aimé Jacquet en 98 où il avait vraiment gardé ses convictions, il a même failli quitter le pays pendant la Coupe du Monde tellement il avait peur de ce que les gens disaient sur lui, mais il a eu raison à la fin. Donc je crois que si le joueur sent que vous êtes sur vos idées et que vous allez mourir avec, il va vous suivre. Par contre, si vous changez d'avis tous les trois jours à cause du vent, je crois que c'est là où ça devient compliqué.
Raoul Savoie, vous êtes le sélectionneur national de l'équipe de République Centrafricaine, ancien entraîneur notamment de Neuchâtel Xamax. Merci d'avoir participé au quart d'heure des spécialistes. Excellente Coupe du Monde à vous.
Merci à vous aussi et j'espère qu'on va continuer à avoir des buts et beaucoup de spectacles parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est intéressant, c'est vraiment intéressant.
Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.